La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Il en va aujourd'hui des cavistes comme des disquaires. Même si les premiers ont eu tendance à se multiplier quand les seconds périclitaient, avant de renaître, dans ces deux types de boutiques, le monde est souvent divisé en deux, de manière plus ou moins apparente, le mainstream et les indépendants. Et cette division du monde, à laquelle s'ajoute un goût pour le graphisme, étiquette et pochette, et une manie d'apprendre les noms propres des producteurs comme des arrangeurs par cœur, permet sans doute de comprendre pourquoi nombre d'amateurs de rock sont devenus, l'âge venant, des amateurs de vin. Mais pas de n'importe quel vin, des vins nature, comme on dit, du rock indé. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui à la suite dans les idées avec Christelle Pinault qui publie La corne de vache et le microscope, le vin nature entre science, croyance et radicalité. Christelle Pinault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, vous êtes chercheuse associée à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain de l'École des hautes études en sciences sociales et vous travaillez sur le vin, mais pas n'importe quel vin, comme je le disais. C'est ce monde qui occupe une place de plus en plus grande, en tout cas si on en croit les mètres carrés des caves ou le fait que même des caves soient spécifiquement dédiées à ce type de vin. C'est un phénomène qui date pour les origines d'il y a très longtemps, mais je dirais pour son succès social dans les grandes villes d'une vingtaine d'années, peut-être une trentaine pour les pionniers. Vous avez mené une enquête anthropologique, ethnologique sur ces vignerons, sur aussi ceux qui gravitent autour, parce que c'est tout un écosystème, une société au fond, pourrait-on dire, de ce vin nature. Et pour la deuxième partie de l'émission, on accueillera quelqu'un qui connaît bien ce monde, à qui on doit sans doute parmi les premiers guides dans le domaine, paru chez Actes Sud, une maison d'édition où il fait paraître un autre petit livre dédié au vin, pas n'importe quel vin, le champagne, et pas n'importe quel champagne, on le verra. Ce critique littéraire et romancier s'appelle Sébastien Lapac et il publie Théorie de la bulle carrée. On en parle en deuxième partie. Théorie de la bulle carrée, La corne de vache et le microscope, deux titres assez mystérieux aujourd'hui au programme de cette émission. Peut-être on verra un peu plus tard à quoi servent les cornes de vache. Mais pour commencer, Christelle Pinault, je voudrais vous donner l'occasion peut-être de nous expliquer ce qui vous a conduit sur ces parcelles, conduit à la rencontre de ces gens qui, pour certains, sont des fils ou filles d'agriculteurs ou de viticulteurs, mais pour d'autres sont des gens comme vous et moi, j'allais dire, qui ont eu un métier avant et qui ont décidé à un moment donné de se mettre à faire du vin. C'est l'un des phénomènes marquants d'ailleurs de cet univers. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cet objet de recherche, puisque c'est devenu pour vous votre objet de recherche?
Oui, tout à fait. Bah, tout simplement un intérêt de longue date pour le vin, pour l'univers du vin, pour les odeurs, les saveurs, et c'est ce qui m'a conduit évidemment assez directement finalement dans ce milieu-là, ces milieux-là. Donc voilà, donc j'avais commencé initialement à travailler sur le vin dans des travaux de master, mais plus sur une approche autour du genre, sur l'émergence des femmes dans le monde du vin et les nouveaux assemblages, femmes, hommes, vin, aujourd'hui les nouveaux assemblages. Qu'est-ce que tout cela peut bien vouloir dire? Comment ça se joue au-delà des figures emblématiques? Donc voilà, petit à petit, eh bien je suis tombée dans la marmite nature, entre guillemets. J'ai découvert ces vins-là que je recherchais d'une certaine manière, sans les connaître à l'époque encore, et une rencontre fortuite ou presque m'a fait découvrir ce type de vin qui m'a instantanément parlé.
Une rencontre dans le Minervois.
Alors dire, c'est ça, ça a été quelques temps après.
Parce que ça donne lieu à des pages, oui, tout à fait, de récits ethnographiques qui morceau conséquent de votre livre.
Oui, alors bon, effectivement, la rencontre dans le Minervois a été assez déterminante, effectivement, pour la recherche. Il y a eu évidemment d'autres lieux, d'autres gens, d'autres moments. Celle-ci a été plus longue que d'autres. Et donc, oui, rencontre fortuite avec ce type de vin, tout simplement, dans un restaurant, voilà.
Oui, comme on en a tous fait à un moment, il y a quelques années, l'expérience. Certains d'entre nous goûtons ce type de vin, d'autres pas du tout. Il y a une sorte de guerre du goût, plus ou moins affirmée. Il y a aussi des gens qui boivent des deux, bien évidemment. Et les cavistes, là-dedans, jouent un rôle aussi important. On va le voir, Christelle Pinault. Mais peut-être on peut commencer par ce qui vous préoccupe au départ, c'est-à-dire ces questions d'appellation. Donc, ces vins ne sont pas des appellations au sens auquel on est habitué dans le monde du vin, liées à des régions, à des terroirs très contrôlés par l'INAO, etc. Mais ils ont néanmoins une étiquette, en quelque sorte. Ils ont d'ailleurs des étiquettes. Beaucoup d'étiquettes, et les étiquettes jouent un rôle très très important dans cet univers.
Ce sont des marqueurs très forts,
oui. Mais en fait, ça pose la question de la définition, parce que même s'il y a des organismes indépendants qui ont des labels, par exemple Demeter qui dit voilà, ce vin est fait en biodynamie, la première question qui se pose, c'est de circonscrire au fond le périmètre qui vous intéresse. Est-ce que c'est celui des vins bio? Est-ce que c'est celui des vins en biodynamie? Est-ce que c'est celui des vins nature ou naturels? Comment on peut s'y retrouver dans tout ça?
Alors effectivement, c'est quand même une difficulté. Donc une difficulté que j'ai abordée vraiment, véritablement par le terrain, en écoutant les gens, avant de vouloir proposer une définition. Au bout du compte, je n'avais pas forcément plus de définition, puisque justement, l'idée, c'était de montrer toute l'hétérogénéité de ces pratiques. Néanmoins, on va dire que le terrain est circonscrit aux vignerons qui font des vins bio, largement au-dessus du bio, pourrait-on dire, largement au-dessus du seuil, on va dire, minimal, et puis qui tendent vers des vins absolument, absolument sans aucun intrant chimique de synthèse, y compris son soufre, y compris dans les modes d'intervention, moindre intervention à la vigne. Donc, je ne me suis pas intéressée à ce qu'on pourrait appeler le bio-industriel, voilà, bio-distribuel, qui a fourni les rayons de la grande distribution, mais à l'intérieur de ce réseau, donc figurent effectivement des vignerons qui peuvent utiliser des pratiques de la bio, issues de la biodynamie, tout ou partie, de différentes manières.
Alors, je vais vous donner l'occasion de nous expliquer un peu de quoi il s'agit, mais il y a un mot qui est important dans ce que vous avez dit, c'est chimie de synthèse, parce qu'au fond, bon, ça, tout est chimie.
Ben voilà,
de la chimie, le raisin, c'est de la chimie, les plantes aussi, etc. Donc la chimie, c'est pas mauvais en soi. Ce contre quoi se sont érigés un certain nombre de vignerons, c'est le fait d'ajouter au vin des éléments chimiques de synthèse.
Voilà, et déjà à la extérieur. Vigne dans un premier temps.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous faites remonter ça à ces manifestations politiques des vignerons dans le sud de la France, dans le sud-ouest de la France, au début du XXe siècle, où déjà ils se mobilisaient contre les vins trafiqués qui venaient du sud de la Méditerranée en particulier.
Voilà, donc à l'époque, la question était essentiellement centrée sur la chaptalisation, donc les ajouts de sucre, et puis effectivement tous les trafics qu'il y avait autour. Mais c'est effectivement un moment où, sur des pancartes, des affichettes, ont été vues donc cette première association de vins et de nature, vin naturel. Donc effectivement, j'ai trouvé quelques repères de cette définition, d'une certaine manière, en tout cas de cette notion de naturel. Et puis aussi, j'évoque Antoine Cristal, donc quelqu'un qui a, dans la deuxième partie de sa vie, donc un industriel fortuné qui récupère des vignes en Anjou et qui lui aussi décide de faire de la culture de la vigne et des vins le plus naturellement possible. Donc lui aussi s'approprie d'une certaine manière cette notion de naturel, mais là encore, il s'agissait plutôt d'intention et d'attention autour de la chaptalisation. On évoquait très peu, le soufre, puisqu'aujourd'hui...
On continuait de l'utiliser d'ailleurs.
On continuait de l'utiliser, alors évidemment dans une bien moindre mesure hein, que toutes ces années après-guerre, hein, voilà. Mais effectivement, donc là, ce sont les deux exemples qui sont pris pour évoquer ces premiers moments où on commence à parler de vin naturel.
Alors, ce qui est intéressant dans votre enquête, c'est que, au fond, vous mettez en évidence le fait qu'il y a une dimension, on va dire, qu'on pourrait qualifier d'idéologique, sans du tout que ce soit nécessairement péjoratif, c'est-à-dire une pratique qui a est à mettre en relation avec une représentation du monde, un rapport à la nature, etc. Et d'un autre côté, il y a une approche qui est plus reliée à l'expérience du goût, puisque en fait, c'est frappant de voir que des gens font des expériences, font des tests, ils vinifient une partie de leur production de façon traditionnelle en ajoutant des choses au vin comme il était l'habitude de le faire, et puis une autre sans rien faire, ils se rendent compte que ces vins sont meilleurs. Donc ça, c'est un jugement de goût et de valeur.
Oui, alors là, vous faites référence très directement, j'imagine, à l'expérience de Pierre Auvernois, vigneron très très connu, de manière internationalement. Donc aujourd'hui, vigneron du Jura à Pupillin, qui lui-même explique ça. Voilà, explique qu'il a appris l'œnologie, il a appris à l'école de vitiviniculture.
Comment on fait du vin normalement.
Comment on fait du vin, voilà. Et puis finalement, rentré chez lui, il se rend compte que les vins vinifiés par son père et par son frère sont bien meilleurs, voilà, et lui parlent beaucoup plus. Et là, évidemment, ça lui pose un véritable cas d'école. Et c'est à partir de ce moment-là que, progressivement, par le biais aussi de rencontres avec d'autres personnes, notamment Jacques Néoport, fils, c'est pas véritablement un fils, bien sûr, mais ami et élève, fils spirituel de Jules Chauvet, hein, référence pour tous les vignerons nature. À partir de rencontres, il va aussi, lui, petit à petit, s'ouvrir à des pratiques autres, donc sans désherbants chimiques de synthèse à la vigne, et puis aussi surtout des vins sans soufre.
On a l'impression que tout ça se développe un peu en parallèle, parce que ça représente très très peu d'abord en termes de production, et puis ça se développe sur différents endroits, espaces du territoire français, mais pas
tous
n'importe
lesquels,
en fait, non plus, parce que c'est pas principalement dans le Bordelais pur et dur ou dans la Bourgogne pur et dur qu'on va trouver les expériences les plus précoces
Les plus précoces, alors il y en a, elles sont évidemment très isolées, ce ne sont pas les vignobles, pour les raisons qu'on imagine assez facilement, dans lesquels il y a eu le plus évidemment d'agrégation de personnes, de vignerons et de toutes leurs expériences. On les retrouve principalement en Ardèche, dans le Sud-Ouest, dans le Minervois, dans le Beaujolais, dans la Loire, en Anjou, effectivement tous les vignobles sont quand même concernés, de plus en plus, y compris le Bordelais. Et y compris à l'international, surtout, aussi.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de ces producteurs, même si leur production n'est pas très importante, qui exportent une très grande partie de leur vin au Japon, aux États-Unis.
Ces vins s'exportent très bien, énormément.
Alors, il y a beaucoup d'aspects différents dans votre travail d'enquête sur ce monde, sur cette société du vin naturel. L'un, par exemple, concerne, vous l'évoquiez à l'instant, les questions générationnelles. Il n'est pas rare que ces vignerons qui ont décidé de basculer ou de faire basculer leur vigne vers le vin nature et hériter de leurs parents des parcelles, des vignes, procéder à une sorte de révolution. Alors, elle ne se fait pas d'un claquement de doigts, du jour au lendemain, parce qu'il faut du temps à l'agriculture biologique dans un premier temps, et puis après, à la production de vin biologique ou naturel. Mais ça a pu provoquer des tensions intragénérationnelles, intergénérationnelles, en fait, parce que vous racontez l'histoire, notamment, ça m'a frappé d'un jeune viticulteur qui, pour des raisons de sol, a décidé de pas désherber, pour que le sol se maintienne en raison des pluies importantes. Et ça lui a valu d'être accusé par des gens alentour de maltraitance de la vigne, ou je sais pas comment dire. dire. Enfin, en tous les cas, voilà, il rangeait pas bien sa chambre, en quelque sorte. Et y compris, sa mère a eu ce type de réaction.
Oui, on lui a renvoyé cette image, effectivement, et parfois la honte s'installe socialement, hein, parce que on est dans un groupe et c'est difficile de sortir d'un groupe. Donc effectivement, cet exemple que vous citez, voilà, a concerné ou peut encore concerner des vignerons qui se posent la question aujourd'hui, effectivement, de basculer dans d'autres formes de pratiques, parce que ça signifie très concrètement fermer la porte, d'une certaine manière, sur tout un groupe et toute une forme de socialisation. Ça veut dire recréer d'autres liens ailleurs.
Alors ces liens, ils ont été créés par des associations, des sociétés qui ont permis à ces producteurs de vin d'être en contact, peut-être aussi de partager des savoir-faire, parce qu'au fond, ce qu'ils ont mis en œuvre, ils l'ont pour la plupart d'entre eux pas appris à l'école. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des formations d'ailleurs qui prennent en charge cette dimension.
Très peu. Il n'y a pas d'école pour apprendre à faire du vin naturel. La plupart du temps, les personnes se forment à l'issue d'une formation, on va dire, classique dans les écoles de vitiviniculture aujourd'hui, vont se former chez des vignerons.
Il y a quelques exceptions. De compagnonnage. Je pense à Christian Chaussard qui a été professeur au lycée d'Amboise et qui a formé autour de lui tout un groupe de jeunes vignerons dans la Loire. Feu Christian Chaussard. Qui faisait du très bon vin, du très bon Pinot de Nice. Mais c'est peut-être une exception, oui, ce rôle-là.
Alors, ça tient vraiment à des particularités, à quelques personnes qui, peut-être, au sein des écoles, il y a des modules, effectivement. Les écoles s'ouvrent petit à petit, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y ait véritablement une école pour apprendre à faire du vin naturel. C'est davantage par acculturation d'une certaine manière, en visitant ses pairs, par compagnonnage, et le fait de mentionner sur son CV voilà chez qui on a pu apprendre des choses est beaucoup plus important certainement aujourd'hui que le nom d'une école.
Alors ça c'est je dirais le bon côté du vin nature, le fait qu'on essaye de faire des vins qui soient bons, quoi, tout simplement. C'est subjectif, mais bon, c'est très important, et c'est important qu'il y ait des critiques aussi pour ça, comme pour toutes les productions culturelles. Mais l'autre côté qui évidemment est sympathique aussi, c'est le rapport étroit à la nature, la prise de conscience de ce moment de l'anthropocène, et ça, vous inscrivez vos travaux dans ce sillage-là. D'un autre côté, le mauvais côté, ou la part un peu noire, c'est parfois des résurgences de croyances et de superstitions. Alors ça nous renvoie à la corne de vache qui est sur le titre de votre livre. Racontez-nous de quoi il s'agit, Christelle Pinot.
Donc ce titre, hein, la corne de vache et le microscope, c'est véritablement une métaphore donc des savoirs issus du sensible et ou renvoyés dans le cadre de l'ésotérisme pour certains, et puis de l'autre côté le microscope, tous les savoirs issus de la raison. Donc ça fait très directement référence pour la corne de vache aux pratiques biodynamiques, donc Steiner, l'anthroposophie, et puis de l'autre côté le microscope, notamment Jules Chauvet, négociant vigneron du Beaujolais, qui a donc travaillé dans les sciences dures, en microbiologie.
Avec l'Institut Pasteur, avec des scientifiques.
Voilà, avec un ancien directeur de fermentation de l'Institut Pasteur, donc qui a travaillé véritablement en recherche fondamentale, en chimie et en microbiologie, pour se passer de la chimie de synthèse, et ce qu'il a commencé à faire à partir de 1951 pour une partie de sa récolte à ce moment-là.
Donc on voit qu'il y a les deux dimensions, on ne veut pas rejeter le vin nature du côté du versant fake science, on pourrait dire aujourd'hui. Il y a aussi une partie des gens qui ont essayé de fabriquer, de faire ce vin de manière différente, qui ont pu s'appuyer sur des recherches scientifiques très rigoureuses, on va dire.
Ce qu'il est très important de noter, c'est surtout comment la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux, articulent sans grande difficulté tous ces savoirs mêlés, superposent. Donc il y a des formes d'hybridation, donc des savoirs collectés ou ressenti, tout simplement, hein, issu du sensible, et puis tous ceux qui sont dans la droite ligne des sciences dures. Et ces deux formes de savoir, que ce soit de la biodynamie ou d'autres choses, bon là évidemment je mets en exergue la corne de vache qui fait explicitement référence à la biodynamie, mais il y a bien d'autres recherches aussi sur le spirituel, sur le sensible, sur la perception, sur l'attention, enfin toutes ces choses qu'ils essaient d'approfondir pour justement essayer d'aller au plus loin dans la compréhension des choses, dans les différents types de langage, et qu'ils viennent articuler avec voilà, avec le savoir du microscope qui lui va aussi renseigner sur les types de levures. Voilà, comment se porte le vin à tel moment pour peut-être pouvoir anticiper sur certaines choses, puisque le principe c'est la prévention, l'anticipation et évidemment ne pas ajouter dans la plupart des cas de produits.
Alors il y a une chose très très étrange pour ces producteurs et qui doit être assez désagréable, c'est que on leur interdit de faire figurer sur leur bouteille le lieu où ils habitent, où
la
ils font leur vin,
ouais.
La mention géographique, ouais. Parce que tout ça est contrôlé par un système très très rigide, on va dire. Et on comprend bien pourquoi ce système a été mis en œuvre. Et quelle est la relation du coup de ces producteurs-là avec leur sol, avec leur terroir? On a l'impression que, évidemment, ils aimeraient pouvoir dire d'où vient le vin, et en même temps, ils sont moins racinés, en quelque sorte, que les gardiens du temple des appellations. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux font des vins exilés, ils vont acheter du raisin dans d'autres régions de la France qui vignent chez eux quand ils ont des problèmes d'intempéries,
oui, c'est
par exemple.
Autre, donc, c'est une
manière de dire, au fond,
c'est possible.
On peut faire voyager le raisin et on peut faire du vin migrant, en quelque sorte. Christelle.
Oui, alors là, c'était pas. Vous faites peut-être référence aux périodes effectivement de gel où beaucoup d'entre eux ont perdu une grosse partie de leur récolte, et donc il y a eu une période qui a suivi d'entraide où effectivement des raisins ont pu être donnés, prêtés d'une certaine manière pour peut-être qu'ils soient rendus ultérieurement. En tout cas, effectivement, dans ces cadres-là, les raisins ont pu voyager. Pour la question de l'appellation, de la mention géographique, effectivement, c'est quelque chose qui est assez incompréhensible pour eux, douloureux aussi parfois, de ne pas simplement pouvoir dire d'où sont leurs vins, parce que ce ne sont pas des vins patrides, loin de là, et qu'ils ont eux aussi, ils sont dans un terroir.
Ils viennent de quelque part, oui.
Ils viennent de quelque part et ils sont bien sûr enracinés, non. Certains le vivent plus ou moins bien, voilà, et
en fait,
certains
paradoxe...
sont très attachés aussi à leur terroir. Il faut peut-être préciser aussi que tous ne sont pas en vin de France. Certains vins dits de nature peuvent aussi avoir des appellations, être en appellation.
Voilà, vin de France, c'est quand on n'a pas le droit à l'appellation, donc c'est l'appellation générique.
Une appellation générique, voilà.
Mais le paradoxe, c'est qu'on pour vraiment passer outre ce système d'appellation, il faut être très très fort, c'est-à-dire qu'en fait, il faut être le seul producteur de son appellation, de son terroir. Ça vaut pour deux, l'un en Bourgogne
voilà,
et l'autre dans la Loire.
Voilà, tout à fait, le domaine de la Romanée-Conti, bon, évidemment, qui est un domaine d'exception, qui ne se qualifie pas, d'ailleurs, de nature, bien que pratiquant l'agriculture biologique depuis très très longtemps et la biodynamie, mais ne tient pas à se faire englober dans ce réseau un peu hétérogène, polymorphe, voilà, pour des raisons qu'on peut comprendre.
Et l'autre, c'est la coulée de Séran dans la Loire.
La coulée de Séran et également le domaine de la Roche aux Moines, notamment Tessa La Roche et voilà et sa maman.
Donc ça c'est
pour ces personnes-là, effectivement, le terroir, l'appellation prend une dimension supérieure. Voilà, sont très attachés à cette notion d'identification. Pour certains, c'est moins prégnant, effectivement.
Vous terminez votre livre, Christelle Pinault, par la question de l'héritage. C'est souvent par là que commence l'histoire, avec des viticulteurs qui héritent de vignes et qui vont les transformer en vignes en biodynamie ou, enfin, en tous les cas, produire des vins nature. Mais à un moment donné, il faut qu'ils passent la main. Et c'est là-dessus que vous terminez. Comment on peut passer ce genre de savoir-faire? On disait tout à l'heure que ça s'apprenait pas vraiment à l'école.
Mm-hmm. C'est une question effectivement qui là aussi peut être douloureuse, comme dans toute transmission hein, des personnes d'ailleurs qui travaillent la terre. Ça, c'est quelque chose qui plus généralement est assez assez fréquente. Mais donc effectivement, soit ils ont des héritiers ou des héritières qui sont en capacité et qui ont le souhait tout simplement de reprendre. Soit il faut trouver quelqu'un à qui léguer, à qui transmettre ce végétal, à qui on a parlé, pour lequel on a travaillé très dur. Et cette période, effectivement, peut être assez compliquée, parce qu'il y a une relation très intime, des liens d'affect très très forts qui ont été tissés tout au long des années de travaux dans les vignes, des années de vinification, et qui ont permis de construire des liens extrêmement puissants. Et donc effectivement, cette période est une période assez complexe, souvent, pour les vignerons et les vigneronnes.
Alors on va voir que ce domaine du vin nature s'est même étendu dans un type de vin particulier, particulièrement industriel aussi, très lié au secteur du luxe, qui est le champagne. Mais ça, ce sera dans la deuxième partie avec Sébastien Lapac. Et après qu'on ait écouté un extrait de l'album Kevola, qui est le projet de Fidel Fourneyron, le tromboniste, avec des percussionnistes cubains.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Corne de vache et le microscope, c'est le titre du livre de Christelle Pinault dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées. Une enquête d'anthropologie sur ce monde du vin naturel, un monde que connaît par cœur Sébastien Lapac, qui est l'un des pionniers et l'un des critiques du vin de ce domaine, et qui fait paraître chez Actes Sud un livre au titre étrange aussi, Théorie de la bulle carrée. Qu'est-ce que c'est que cette théorie, Sébastien Lapac?
C'est une suite de livres que j'ai entreprise il y a quelques temps déjà. J'ai parlé des cartes postales et de deux villes, Alger et Rio de Janeiro. Et là, je parle de la bulle carrée. C'est un concept qui m'a été soufflé par le héros de ce livre, le vigneron champenois Anselme Sélos, qui me dit qu'il aime bien que ces bulles aient de l'angle, qu'elles soient croquantes sous la dent, les bulles de son champagne. Donc je trouve ça très beau. Nous étions entrés immédiatement en pleine poésie pure, là, avec ce propos. Et donc je me suis amusé à comparer Anselme à une sorte de Picasso du chardonnay, puisque c'est essentiellement du chardonnay, ce raisin blanc qui est à l'origine du fameux blanc de blanc en Champagne, qui est dans son domaine, il a un petit peu de pinot noir également. Et donc voilà, nous étions embarqués en pleine viticulture, en pleine poésie. Et comme vous l'avez dit, Anselme Sélos fait partie de ces vignerons champenois qui ont emmené leur vignoble, leur terroir dans cette nouvelle direction. Est-ce qu'ils se revendiquent directement du vin nature? C'est un petit peu le propos que vous avez eu avec Christelle Pinault auparavant. C'est, il y en a qui se revendiquent directement, indirectement, d'ailleurs peu importe. Je pose la question à Anselme Sélos dans le livre. Il dit « Il est sûr que je me sens plus proche du naturel que de l'artificiel ». Donc voilà.
Manière de répondre assez claire.
Oui, voilà. Et surtout dans un endroit comme la Champagne, hein, où l'artificiel peut exister, je pense qu'il y a des gens qui ont une démarche, puisque vous avez parlé avec Christelle Pinault du soufre, d'une revendication de nature, d'agriculture biologique, de biodynamie très poussée. Je pense qu'il y a des gens qui ont une revendication en Champagne de nature, de sans soufre, beaucoup plus et de biodynamie, beaucoup plus radicale qu'en Semcelos, qui lui prétend et veut, revendique une démarche très pragmatique à l'égard de toutes ces choses, comme un grand nombre d'ailleurs de vignerons nature. Dont vous parlez dans votre livre,
sont intégristes, mais la plupart sont quand même des pragmatiques.
Non, mais vous voyez, moi, je prends pas tellement ça pour du dogmatisme. Je prends ça plutôt comme des gens qui se soumettent à une épreuve. Si vous décidez, par exemple, de traverser l'Atlantique à la voile, parce que c'est votre défi, et vous décidez de
vous décider. C'est pas parce que vous avez quelque chose contre les moteurs.
Voilà, c'est parce que vous. Voilà, moi, je le vois plutôt comme un défi qu'on se fixe à soi-même, une sorte de haute couture finalement, et d'autres qui vont aller sur des choses, au contraire, qui se disent bon, bah moi, s'il y a pas de vent, je mets le moteur de mon bateau. Pour le soufre, c'est un petit peu la même chose. Hein. Vous parlez de la Romanée Conti, Aubert de Villaine explique qu'il met 10 mg de soufre, ce qui est une dose très très faible dans son vin. Et Jules Chauvet, qui a fait plusieurs essais sur le soufre, d'ailleurs vous le dites bien dans votre livre, explique qu'en dessous d'une certaine dose, ça ne sert à rien. C'est ce que pensait Marcel Lapierre. Moi, c'est effectivement le quatrième livre que j'écris sur le vin, mais c'est le deuxième portrait de vigneron que je fais, parce que ma pente naturelle étant celle de la littérature et celle d'un romancier, je trouvais que le portrait c'était le mieux. J'ai fait Marcel Lapierre en 2004, et là donc à Morgon dans le Beaujolais, et là en Semcelos. Et Marcel Lapierre sur le soufre, élève de Jules Chauvet, disait qu'en dessous de 40 mg, ça ne servait à rien, donc autant ne pas en mettre. Bon, Aubert de Villaine, il en met 10 mg à la Romanée Conti. Donc, c'est peut-être, là aussi, on est dans une espèce de filet que se mettrait un acrobate en se disant, on sait jamais si je tombe. Et on est toujours dans une espèce de volonté de se rassurer. Donc, c'est pour ça que je pense pas que ça soit du dogmatisme, les contraintes que se fixent ou que se fixent pas les uns les autres, c'est une affaire de sensibilité.
Et c'est une affaire de littérature aussi, Christelle Pinault, parce que Sébastien Lapaille est un écrivain, et il y a, il me semble, une révolution poétique aussi dans le passage au vin naturel. C'est-à-dire qu'on sort d'un certain nombre de clichés sur le vin qui sont assez insupportables, de critiques. Ce vin-là est aussi l'occasion pour un certain type de critique du vin de se renouveler, de renouveler les références et de produire une autre littérature du vin.
Oui, c'est vrai, il faut apprendre d'une certaine manière à parler de ces vins-là différemment, puisque les codes sont complètement différents, notamment en termes de dégustation. Donc il faut réécrire son carnet de sa grille de lecture et retrouver des nouveaux, réécrire des carnets de sensations. Donc ce sont des vins qui invitent à écrire aussi des histoires, effectivement, à en parler différemment, de manière un peu moins peut-être organoleptique.
Et à reconfigurer son palais, pourrait-on dire, pour faire référence aux travaux d'Antoine Aignon, qui est un sociologue qui avait travaillé sur le goût du vin et la manière dont il se fabrique, au fond, socialement aussi.
Complètement, oui. Le palais est éduqué. Alors, certains disent formaté, déformé aussi. Donc du coup, l'approche des vins nature, c'est aussi une façon de désapprendre, de se déshabiller de ses connaissances pour accéder, recouvrer une partie des perceptions qui étaient enfouies souvent très loin, voilà, dans notre corps animal.
C'est vrai. À ceci près, il faut le dire que là maintenant il y a toute une génération de jeunes gens qui découvrent le vin nature en même temps qu'ils découvrent le vin.
Tout à fait.
Ça, c'est vraiment un phénomène.
Donc, on n'a plus besoin de passer par l'étape critique, parce qu'on se souvient du rôle très important, par exemple, de Mondovino, Jonathan Nociter. C'est-à-dire, on était dans un moment où la critique, la dénonciation des vins qui se mettaient à tous se ressembler, des vins parkerisés, comme on dit, du nom de ce critique bien américain, dans lesquels on sent le fût de chêne de telle façon que ça écrase tout. Bon, là, il y a eu un moment de critique, de prise de conscience important, mais finalement, on est au-delà de ça. Aujourd'hui, vous diriez, Sébastien Lapaille?
Ah oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, on peut tout à fait dater les choses. Hein. Dans votre livre, vous permettez de les dater. Le milieu des années 60, c'est la révolution verte, donc on apporte tous ces produits qui semblent confortables. D'ailleurs, vous faites parler des gens de manière très honnête, qui disent c'est normal de les avoir acceptés. On vous promet quelque chose qui vous simplifie la vie, vous n'allez pas le refuser.
On minimise le risque.
Donc on se rend compte qu'en fait, malheureusement, de chaque progrès, il faut non seulement savoir ce qu'il nous apporte, mais aussi ce qu'il nous retire. Et on se rend compte que ce qu'il nous retire était supérieur à ce qu'il nous apportait. Ensuite, il y a les années 80 que Jonathan Nociter a bien résumé dans Mondovino, c'est-à-dire le millésime 82 à Bordeaux, était tellement californien par les conditions météorologiques que les critiques américains lui ont mis des notes maximum et que les Bordelais se sont attachés année après année à reproduire ce millésime, comme Jonathan l'a montré dans son film. Et donc, du coup, ils sont attachés à faire un vin californien, donc extrait, boisé. Robert Parker a pris sa retraite en 2012, donc maintenant ça fait presque longtemps. Et en effet, la façon dont les vins naturels se sont imposés, c'est vraiment la fin des années 80, on va dire 90, c'est déjà un moment important, avec le bon, à travers par exemple, Marcel Lapierre l'a beaucoup fait, ou des vignerons du Beaujolais comme Jean Foyard, à travers un événement festif comme le Beaujolais Nouveau, qui avait été discrédité par le Beaujolais qui avait goût de banane, donc c'est la fameuse levure B71, l'acétate d'isoamyl, et donc en fait on revenait sur un fruit pressé et non pas sur le goût que donnait cette levure. Ça a permis à un certain nombre de gens de découvrir ça. Et alors maintenant, bah, c'est effectivement à travers les nouveaux modes de consommation que vous étudiez comme anthropologue, les bars à vin, les cavistes, les grands salons de dégustation. Il y a deux catégories de nouveaux consommateurs qui rendent malheureux ceux qui considèrent que le vin naturel est une imposture, parce qu'il y en a encore beaucoup. C'est le seul petit, non pas reproche, mais vous voyez, je trouve que peut-être parce que la dimension scientifique de votre livre vous empêchait de rentrer dans les polémiques, vous n'insistez pas beaucoup sur les forces brutales d'opposition, la diffamation, la calomnie. Moi, vous savez, je discutais aujourd'hui, on parlait du Bordeaux. Il y a un grand vigneron qui fait du vin nature sans soufre à Bordeaux et qui a une très grande maison, Château Le Puy, Jean-Pierre Amoreau, qui est, comme vous le savez sans doute, une star au Japon, puisque dans la fameuse manga Les Gouttes de Dieu, le 2003 du château émilien du Château Le Puy était considéré comme le meilleur vin de tous les temps. Ben là, il a des problèmes d'agrément encore réguliers. C'est-à-dire qu'on essaie de lui déclasser son Bordeaux en vin de France parce que, avec des critiques toujours absurdes, végétales et oxydées, toujours les mêmes critiques. Alors moi, je pourrais en parler aussi à propos du champagne. Le champagne, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas de sous-catégorie de champagne. C'est directement chez le vinaigrier ou à la distillerie. Quand on est, il n'y a pas de vin de pays ou de vin. On ne fait pas du champagne vin de France. Hein. Donc en plus. Anselm Cellos a eu des problèmes tout au long de son travail, puisque lui, il propose une référence de goût nouvelle, qui est celle d'une forme d'oxydation maîtrisée. Donc ça renvoie à Pierre Auvernois, dont vous avez parlé, une référence de goût qui est celle des vins du Jura.
Pour obtenir cette bulle carrée.
Voilà. Et aussi, une référence de goût qui est maintenant à la mode dans d'autres pays européens, qui nous vient des inventeurs du vin, les Géorgiens. Ce sont ces fameux vins oranges qui consistent à faire macérer les peaux comme dans du vin rouge dans les vins blancs. Donc on a des goûts un petit peu oxydatifs de noix, d'amandes fraîches, tout à fait étonnant. Donc les Italiens,
on voit ça dans le nord de l'Italie.
Voilà, les Italiens, les Géorgiens et maintenant des Français. Alors ça crée une quatrième couleur, c'est intéressant. Puis sur ces glissements qu'on voit dans les cartes de certains restaurants aux États-Unis, je l'ai vu au Brésil, on le voit en Italie, vin orange.
Des vins qui ont des allures de cidre en fait.
Voilà, exactement. Alors on n'en est pas encore en France. Je pense que la sommellerie française est très très normée, bornée, je peux peut-être changer une lettre, à l'exception de très rares sommeliers qui sont
ouverts.
Dans les trois étoiles Michelin, à part le sommelier de chez Olivier Rollinger à Cancale, je ne connais aucun sommelier qui ait la tolérance sur ces vins oranges ou bizarres. Non, ils sont quand même souvent très intolérants parce qu'ils sont une génération qui se moque de ces vins. Moi, voilà, c'est la seule réserve que je fais sur votre livre. Vous montrez pas à quel point c'est un champ de bataille avec des persécutions, parce que vous avez évoqué les vignerons. Oui. Je pense à Alexandre Bain. Oui, on en a beaucoup parlé.
Les procès qui existent. Voilà. Oui.
Alors oui, on va vous laisser répondre, Christelle Pinot. Au fond, sur le rôle aussi de ces instances de contrôle et de légitimation. C'est-à-dire, on parlait des cavistes. Évidemment, il y a les consommateurs, mais il y a ces gens, les sommeliers. Enfin, quel rôle jouent-ils? Les critiques dont on parlait. Il y a différents intermédiaires ou personnes qui ont des choses à dire.
Oui, alors quels cavistes, quels intermédiaires, etc. Ceux qui sont convaincus vont servir justement à décoder, à expliquer. Ce sont de véritables passeurs, médiateurs. Entre les vignerons, nature et le public potentiel. Donc ces gens-là ont un rôle absolument essentiel à jouer et ils le jouent. Parfois aussi, ils se retrouvent aussi coincés, englués. Ils n'ont pas non plus la marge de manœuvre, notamment vous citiez des étoilés, pour pouvoir faire accepter des glissements de cartes vers tout ou partie du nature, parce que là, pour le coup, ce sont les gestionnaires qui sont un petit peu inquiets quand même de savoir si la personne est en capacité de porter, de vendre au sens très légitime, très 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 noble du terme, de bien exprimer ce que contient cette bouteille et ce pourquoi il faudrait peut-être la boire.
Enfin, c'est vrai, vous avez raison, parce que vous regardez le monde. Alors moi, je me suis occupé avec Théorie de la Bulgarie, la champagne. Donc vous voyez, si je veux, on parle d'intérêt industriel, de choses brutales, de rapports de force, je pouvais pas imaginer mieux. Hein. J'ai commencé par le Beaujolais où les gens se bagarrent au bistrot du village, mais après tout se passe bien, ils retrouvent leurs enfants à la sortie de l'école.
La champagne, il y a des grands acteurs industriels.
Puis surtout, comme le montre très bien Jonathan Nociter dans son film, c'est des gens qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire que vous allez attaquer quelqu'un, mais vous n'allez pas déposer vos enfants à l'école le lundi matin, et vous êtes obligé, même si, parce que ça aussi c'est intéressant dans le monde viticole tel que vous le décrivez dans votre livre, c'est des gens qui vivent ensemble. Donc même s'ils ont des philosophies très différentes, au bout du compte, ils s'entendent. Moi, je connais beaucoup de vignerons naturels qui sont très amis avec des voisins qui sont dans le tout chimique. Et en fait, ils sont amis pour d'autres raisons. Ah oui, bien sûr, il y en a. Là, je peux vous donner l'exemple, par exemple, Eric Pfifferling, je crois. Sylvain Bourmont, un vigneron dont vous aimez le travail à Tavel. J'ai passé un peu de temps avec lui à Tavel. Il avait des voisins qui travaillaient pas du tout comme lui et ils étaient amis. Quand on est dans, et vous savez, c'est la même chose pour Marcel Lapierre, quand on est dans des appellations à laquelle tout le monde tient. C'est vrai que dans votre livre, il y a parfois des gens hors appellation, comme on a dit, mais quand on est, par exemple, à Villiers-Morgon ou à Tavel, tout le monde tient, celui qui fait du nature ou celui qui va être plus dans du conventionnel. Oui. Les gens, au bout du compte, finissent par s'entendre. C'est ce qui se passe, en fait, en Champagne. Hein. C'est pour ça que c'est vrai problème de sortir complètement quelqu'un de l'appellation, de l'amener devant un tribunal. On n'en arrive jamais à ces extrémités. On est entre gens qui savent, qui sont conscients de leurs intérêts
communs. Aussi,
voilà, en Champagne, les intérêts sont quand même gigantesques. Et alors, surtout, il y a une chose tout à fait étonnante que je voulais dire pour la Champagne. Comme si je parlais d'autre chose que ce dont vous parlez dans votre livre. Dès qu'on rentre en Champagne, on rentre dans un autre monde, parce qu'on est dans le monde merveilleux du luxe. Et quand je dis merveilleux, il y a une nuance d'ironie qu'il faut entendre. Et merveilleux et trompeur. Et par exemple, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, la consommation mondiale de... Parce que vous avez évoqué Christian Chaussard, dans la révolution du vin nature, il y a le fameux pétillant naturel. C'est-à-dire faire... Pour aller très vite pour les auditeurs qui ne connaissent pas, on va dire un champagne de manière naturelle.
D'ailleurs.
Et Anselme Cellos le fait. Mais il avait écrit à l'INAO d'Épernay en disant qu'il avait fait un champagne naturel et il voulait savoir comment. Parce que probablement, historiquement, je l'ai raconté au XVIe siècle, début du XVIIe, le champagne pétillait, gazouillait de manière naturelle. Et en fait, ce qu'a inventé, si on peut dire inventé, Dom Pérignon, c'est la manière de maîtriser l'effervescence. Et en fait, aujourd'hui, les gens sont très attachés à cette effervescence des pétnates, des pétillants naturels. C'est une des catégories du vin naturel intéressante.
Très beau portrait de vigneron dans ce livre de Sébastien Lapac, Théorie de la Bulgarie. C'est important les portraits parce qu'on en retrouve aussi beaucoup, Christelle Pinot, dans votre livre. Ce sont d'abord et avant tout des rencontres avec des hommes et des femmes
qui inventent ce
vin naturel. Christelle Pinot, La corne de vache et le microscope. Sébastien Lapac, Théorie de la Bulgarie. Vous retrouvez les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées, sur le site de France Culture, où vous pouvez également réécouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Chouchan Djergaian. À la technique, Cédric Châtelus. À la réalisation, Rafik Zénine. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.